Dans la création d'un spectacle d'humour, il y a toujours des moments qu'on aime beaucoup, mais qui malheureusement ne feront pas partie de la sélection finale. J'aime appeler ça mes copochos.
En fait, tu sais que tu sors de la zone intéressante pour les publicitaires quand tu rentres dans une boutique de linge et tu veux le même linge que t'as sur le dos, mais neuf.
Alors, mesdames, messieurs, vous avez reconnu le spectaculaire Martin Petit.
La fameuse voix nasillarde. Je suis tellement pas capable de
j'ai
m'entendre
pas dit
sur scène.
Ça, j'ai dit le spectaculaire.
Non, mais c'est merci. Mais c'est moi, parce que tu m'as obligé à m'entendre moi-même. Et ça, je suis pas capable sur scène. Là,
tu suggérais que c'était du matériel qu'on n'entendra pas livré dans le nouveau spectacle.
Oui, j'ai fait des capsules sur
Facebook. C'est de l'extra.
Je me suis rendu compte rapidement dans le processus de mon show que j'avais écrit beaucoup trop de matériel. Et là, j'ai coupé 15 minutes de mon show. Mais c'était du matériel que j'aimais beaucoup. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, j'ai décidé de faire des capsules. Je l'ai mis sur mon Facebook. Fait que c'est des bouts que je trouvais très durs à couper, mais je les mets. Puis ça donne une idée de ce que je fais pour ceux qui peut-être, dans les derniers 5 ans, m'ont pas vu sur scène, m'ont juste vu au chalet.
Mais c'est un luxe incroyable d'avoir des extras d'écriture. T'aurais pu les vendre à Gad Elmaleh.
Oui, Gad Elmaleh.
J'ai bien dit les vendre.
Oui, les vendre, mais c'est pas un gars qui achète. C'est pas sa force.
C'est non.
Je pense qu'il y a des problèmes de. Il y a peut-être des problèmes pécuniers.
De liquidité.
De liquidité. Ah. Ils se gardent l'argent pour d'autres choses. Tu sais, il y en a qui investissent au mauvais endroit.
Pourquoi gaspiller des bons gags?
C'est ça. Il y a des influenceurs qui aiment ça pas payer le taxi. Il y a des humoristes qui aiment ça pas payer les gags qu'ils empruntent.
Je veux t'en revenir là-dessus sérieusement.
Oui, on peut ça.
Parce qu'il y a un côté.
D'ailleurs, tu me rappelles.
Il y a un côté terriblement sérieux.
Oui, c'est ça. Puis on en reparlera, mais tu me fais penser. J'ai un message dans ma boîte d'hier d'un avocat français qui veut me rejoindre là, absolument là, pour me parler de ça, parce que j'ai l'impression que ça a fait écho suite à Tout le monde en parle. Le Huffington français l'a repris, puis là, il y a un avocat en France qui s'intéresse à ça, parce que probablement qu'il se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais, est-ce qu'il y a des recours?
Vous devez être nombreux à avoir des appels d'avocats, parce que je pense que t'es pas le seul qui a été...
C'est ça, c'est pas le seul. Puis moi, je pense pas que... Je me lancerais pas dans une aventure légale pour des affaires.
Non, mais tu l'as bien exprimé, hein, tout le monde en parle. Qu'est-ce que ça t'a fait au début? Quand t'étais... On peut aussi bien en parler tout de suite. Quand t'étais le premier... la première fois où tu as dit, c'est bien bizarre, c'était à Just for Laugh.
Oui, j'étais dans la salle.
En plus, Elmaleh performait en anglais.
Oui, ça veut dire qu'il l'avait fait comme des centaines de fois déjà en français, mais en France, donc je l'avais jamais vu faire cet extrait de mon premier one-man show-là. Mais là, quand il l'a fait en anglais, je dis, Colin, il a pris son meilleur matériel. Je savais qu'il avait pris son meilleur matériel en français pour le faire en anglais, puis là, c'était sa vitrine pour le monde anglophone. Je dis, coudonc, ça... En tout cas, je trouvais ça drôle, mais je me disais, ce qui était gênant, par contre, dans cette situation-là, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, moi, j'ai animé un gala pour TF1 avec un Français, Patrick Bosseau, dans un festival à Paris. Puis là, je me retrouve à faire mon numéro, mais moi, je ne savais pas que Gad Elmaleh le faisait en France, tu sais. Fait que, tu sais, je l'ai fait, ce numéro-là, en France, devant du monde. Tu sais, je l'ai pas eu, c'est pas arrivé, mais j'aurais pas aimé qu'un humoriste me dise ton truc ça ressemble à Gad Elmaleh. J'ai fait quoi?
Oh.
Tu sais, ça aurait pu arriver parce que il y a pas pensé à Gad Elmaleh, mais moi je à un moment donné, le monde t'invite, je suis vivant, c'est que ça
mais
se
comment,
peut.
Comment il peut penser que personne va le savoir? Ça c'est comme ça s'explique pas. Tu sais, on vit pas.
Non, surtout pas avec YouTube.
Paris Montréal, non, mais sérieusement. Oui.
Avec YouTube, mais copie comique, bizarrement, c'est pas tout le monde qui se lève pour dire « Hey, moi, je vais aller fouiller des humoristes américains, Gad Elmaleh, m'a copié ça, mettre ça ensemble. » Je pense que c'est pas tout le monde qui a ce loisir-là. Il y en a un qui l'a fait et ça crée ce qu'on vit en ce moment. Puis ça c'est un beau travail journalistique qui aurait peut-être dû être fait avant. T'sais, mais même moi, j'étais à Juste pour rire puis je me disais... personne qui se rappelle de mon matériel. Je suis le seul qui le remarque. Tu sais, à un moment donné, tu penses que t'es tout seul. Tu dis, c'est moi qui connais mon matériel. C'est parce que tout le monde a oublié que j'ai fait ça. Puis là, heureusement, mais là, il y a quelqu'un qui... Voilà.
Mais quand t'as vu qu'il n'y avait pas juste toi, là, quand t'as vu...
Ah, après... c'est là que c'est épouvantable. Si c'était juste moi, une fois, tu te dis, c'est pas grave. Gad Elmaleh, il est venu me voir quand il était étudiant à Montréal. Ça l'a marqué, c'est resté dans sa tête. Puis, tu sais, j'y donnais tout le bénéfice du doute.
Ouais. Ah,
mais
oui.
Quand j'ai vu tout le monde, c'est après ça, c'est quand j'ai vu qu'il l'avait fait à
Louis-José, Martin Mapp, Patrick Huard.
Puis là, George Carlin, mot pour mot, Louis C.K., mot pour mot,
Carlin Seinfeld. Est plus là pour se défendre, là.
Ouais. Fait que là, c'est quand tu vois l'abondance, là, tu dis, oh, OK, attends une minute, là. Okay. Moi, j'ai donné le bénéfice du doute à un voleur en série et non pas quelqu'un qui avait, tu sais, parce un que voleur. Ça peut arriver. Ça peut arriver.
Sauf que quand lui en parle, il raconte, c'est comme un hommage. Hein? J'ai trouvé ça très drôle, ce que tu as répondu à tout le monde en parle, quand tu as dit, ben, tu sais, à la banque.
C'est ça. Tu rentres à la banque, c'est pas un hommage au système c'est monétaire. Ça. Si je vole la banque, c'est pas.
Oui, d'une certaine façon, tu rends hommage.
Je rends hommage
au système de
à la
sécurité.
Banque Scotia que je viens de dévaliser. C'est un hommage à l'argent. C'est un hommage à Noël, parce que je vais acheter des cadeaux de Noël, j'imagine, avec cet argent-là.
Quel bon titre de spectacle. 107 000 km/h. Et là, on a compris tout de suite, hein? Non, pas tout
toi, t'as compris tout de suite, Paul.
Tout le monde n'a pas compris tout de suite.
Quand j'ai écrit.
Je parle de moi.
Quand j'ai décidé que c'était pour être mon titre de show, j'ai pensé à Paulude. Garde-le. Je me suis dit, Paulude va le comprendre.
Moi, j'ai dit.
Thérèse va falloir que j'explique.
Thérèse va falloir que
j'explique. mais Thérèse n'avait pas flashé. C'est la vitesse de déplacement de la Terre, notre planète.
Non, oui. Seulement, non seulement j'ai pas flashé, mais depuis que je le sais, depuis là, que je le sais, là. OK? Ça a changé ma vie au complet. Non, non, mais attends. Ça a tout remis en perspective.
Wow, c'est ça le but.
Je pars le matin, j'y pense. J'arrive au travail, j'y pense, puis je me dis, on peut bien être fatigué le soir.
Oui, directeur. Mais ça, vous avez raison, Thérèse. Mais... On peut bien être fatigué à 107 000.
Pourquoi? Où de
kilomètres?
Ça vient d'une conversation que j'ai avec un de mes chums qui est électricien, Jean Leclerc, je le salue, tu sais, puis on parlait à quel point, quand on regarde des dessins, toujours de nos planètes, sont toujours fixes sur un dessin, fait que les planètes bougent pas. Puis on le vit, tu sors dehors, il n'y a pas de vent, fait que tu ne sens pas cette vitesse-là.
Tu perds pas pied.
C'est ça. Puis là, quand tu dis, ah, l'être humain, on va envoyer une navette sur Mars, fait que là, tu regardes le dessin, puis tu fais une ligne droite entre la Terre puis Mars. Non, on est sur une... Pas un slingshot, lance le slingshot. Là, sur le slingshot, t'es là. Tu voles à cette vitesse-là, puis là, t'essaies de pogner une autre planète qui va à une autre vitesse. C'est que là, on essayait de dire, mais comment qu'ils font pour viser que le vaisseau... Quand tu vises Mars, là, imagine Mars, c'est l'autre bord du soleil. Toi, tu vises dans le vide. Puis là, tu pars, tu roules dans le vide parce que Mars, c'est pas toi qui vas sur Mars. C'est Mars qui s'en va te rejoindre.
Exactement.
Je capotais. Fait que là, on s'est mis à avoir les frissons de dire, hey, on est... Le show aurait dû s'appeler Une belle gang d'inconscients.
Ah.
C'est ça la thématique du show. Je pars là-dessus. On est une belle gang d'inconscients sympathiques, mais on n'est pas des imbéciles. Il y a une grosse différence à être inconscient de ce que tu vis parce que on le ressent pas, puis d'être juste niaiseux, puis de penser, exemple, que la Terre est plate. Ça devient la définition d'un imbécile. C'est là quand tu refuses que de dire que, mettons, la Terre est ronde.
On va, recevoir des courriels, là.
Oui.
De gens qui croient que la Terre est plate encore.
Mais c'est qui s'est fait poigner, là, à dire
ça? Le conseillère municipal de Gatineau.
Ben, soit. Ça, c'est l'exemple pour moi. Ça, c'est fabuleux. Comment t'en arrives à te forcer dans ta tête à aller contre tout le monde? Je me dis, qu'est-ce qu'elle... Parce que tu peux pas dire que c'est un complot. Qui est derrière ce petit complot-là de faire à croire à toi puis moi que c'est rond au lieu d'être plate? Alors, nous, c'est un complot un peu complexe, tu trouves pas?
Oui, c'est un peu complexe, non seulement qu'on voit des images de... on a vu des images,
en fait, comment
mais on n'est pas allé sur la Lune.
Comment t'expliques qu'il fait clair en ce moment qu'il fait noir en Chine? Comment qu'elle se l'explique, elle?
C'est une question d'éclairage, Martin.
Sur son assiette dans l'espace.
Il y en a qui ont essayé d'aller au coin, dans les coins.
Oui, ils vont des coins.
Aux quatre coins de la Terre.
C'est un excellent titre de spectacle, mais moi, j'ai souvent dit à Thérèse que le meilleur titre et concept, c'était ton micro de feu.
Le
micro de feu, qui date déjà de 9 ans.
Parce que, tu sais, on t'appelle.
Parce qu'on te voyait sur les grandes affiches quand on roulait et tu tenais le micro de feu dans tes mains. Un clin d'œil à Indiana Jones, non?
Oui. Absolument.
C'était un concept.
Absolument.
Indiana Jones.
Oui, exactement. La mitaine de four qui tient un micro brûlant. Et le pire, c'est que je le faisais avec un micro-casque. Tout le monde m'a dit, mais t'as même pas de micro dans les mains. Non.
Très bon concept.
Les gens ont compris que, avec ce show-là, je me suis mis vraiment à insister sur les tabous puis les sujets qu'il faut pas aborder. Puis dans le fond, 107 000 km/h, c'est la suite. Je ne fais qu'aborder des sujets pas évidents.
On va faire la suite après la pause, justement, pour savoir qu'est-ce qu'on va retrouver exactement dans 107 000
km/h?
D'autres tabous.
Ah,
avec Martin Petit. Non, je m'excuse. Le spectaculaire Martin Petit qui nous parle de son prochain solo, son prochain spectacle solo.
Ouais, c'est mon quatrième. Je pense pas que j'ai abusé, là. Je pense pas que j'ai écœuré les gens en 28 ans.
Avant de parler des tabous, parce qu'on s'est quitté sur les tabous, ouais. Thérèse. On insiste encore une fois. Oui. On s'ennuie des pêcheurs.
Ah,
Thérèse et moi, on les a vus tous les épisodes.
Ouais.
J'aimais beaucoup les pêcheurs. Sérieusement, Martin.
Mais j'ai eu beaucoup de plaisir.
Il faudrait que ça revienne un jour.
J'ai fait 65 épisodes. Écoute, je me suis tellement saigné à blanc. J'ai fini par dire, évidemment. En fait, tu sais, quand t'écris, il faut que t'aies quelque chose à dire. Donc, quand t'écris un one-man show, c'est la même chose. Puis là, je finissais d'écrire mes fournées de 13 épisodes par année. J'avais tellement tout dit ce que j'avais à dire. J'avais pas besoin d'en rajouter. J'avais fait dire à mes personnages tout ce qui était dans l'air du temps que j'avais envie de dire. Des fois, c'était par une réplique ou tu sais. Mais tout était dit. Puis là, j'arrivais, j'étais vidé. Je voyais pas comment j'allais écrire. Mais.
C'était à ce point délicieux, Martin, que je me demande, il faut, tu sais, j'imagine que tu dois avoir d'autres idées. Te connaissant, oui. T'as 2000 idées, t'as pas juste pas le temps de les faire. Mais tu dois avoir d'autres idées d'écriture.
Oui, absolument.
Bon, mais nous autres, on veut pas attendre.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est parce que ce qui est dur, faut que tu reviennes à la télévision.
Ah, vous êtes super gentil, mais ce qui est dur, c'est dans mon cerveau, c'est quand je suis en écriture de stand-up, tout ce que je vois et entends passe puis devient un gag de stand-up puis c'est ça que je fais dans le jour. C'est difficile d'avoir le cerveau de stand-up et en même temps un cerveau de scénariste. Va falloir que là je suis en train de finir mon rodage, mon show se finalise, se met en scène. Là, je vais pouvoir me remettre tranquillement pas vite à penser en termes de scénarisation, mais c'est très dur de faire les deux en même temps.
Alors, parlons des tabous dans ce prochain spectacle. Donne-nous un exemple.
Oh là là, ouais, je parle vraiment juste d'affaires qui sont épouvantables. C'est-à-dire que quand les gens se déplacent puis ils payent pour voir un spectacle, il faut pas que tu abordes les mêmes sujets. Même quand tu vas à la pêche avec tes chums ou même quand tu vas au souper avec tes amis, faut pas que ça soit cette teneur-là. Moi, j'aimerais pas aller voir un spectacle puis que c'est dit, hey, c'est exactement ça qu'on a parlé au souper hier. T'sais, donc, je fais exprès pour... Oui, si je te fais la liste d'épicerie de mes sujets, ça a pas l'air d'une soirée le fun. Mais c'est une heure et demie de gag, mais et oui, je vais parler de burqa. Puis oui, je vais parler de
laïcité.
De laïcité, puis de prêtre pédophile. Puis tu sais, c'est toutes des affaires. Tu te dis, bon, c'est quoi le comique là-dedans? Puis là, c'est de trouver la twist. Puis une fois que tu trouves la twist, c'est comme une découverte. Tu te dis, parce que je trouve que quand tu n'abordes pas de sujets difficiles dans la société, ou quand les artistes ne font pas cet effort-là, ça pop à des endroits que tu n'auras pas prévus. Puis ça crée un sentiment de conspiration. Fait que quand tu vois un artiste devant 1000 personnes parler d'islamophobie, parler de tous ces sujets-là, puis parler de MeToo, puis parler de ça, puis là, tu dis, bon, OK, on en a ri même. On a pas voulu parler, on en a ri. Là, le côté conspiration de « tu peux jamais parler de rien dans la vie », ça s'en va.
T'as-tu voulu être mordant, juste un peu dérangeant? Est-ce qu'il y a des tabous que t'as pas voulu aborder, par exemple? Y a-tu des...
Toi, j'essaie n'importe quoi, puis je garde tout ce qui est le plus drôle. Fait que d'un show à l'autre, des fois, il y a des affaires que... S'il y a des sujets que j'ai pas traités, ben ça va être dans le prochain show. Je vais trouver la façon, ça va juste prendre plus de temps.
T'as commencé le rodage.
Oui, le rodage... Tu vois, j'étais en show au bordel hier soir... Je pense que j'aurais pu faire ma première hier soir, j'aurais été content.
Alors, la réaction, ça a été bon?
La réaction est super bonne, les gens sont contents. Je vais peaufiner ça encore pendant toute l'année. Puis je pense que mon show, il va être différent des autres shows dans le sens où je pense que j'arrêterai pas. Moi, toujours, même pendant la tournée, être en train d'enlever et rajouter des affaires.
Rapidement, tu vas rouler combien de temps avec celui-là?
Ah, sûrement 2 ans.
Sûrement deux. Avec le micro de feu, t'avais roulé combien de temps?
Un petit peu plus longtemps, mais j'aime pas rouler 3 ans avec un show parce que ce qui est plate de rouler trop longtemps, c'est qu'à un moment donné, le sujet qui est hot quand tu l'as écrit, 2 ans plus tard, il est un petit peu moins hot.
Ouais.
Moi, je pense que les meilleures choses sont là dans la première année et demie.
Martin, t'arrives à l'Olympia de Montréal les 14 et 15 octobre à 107 000 km/h et le 11 novembre à la salle Albert Rousseau. Si vous voulez vous procurer ou réserver des billets, vous pouvez le faire au www.martinpetit.com. C'est déjà tout le temps.
Ouais, écoute, c'est génial.
Voilà. Écoute, vous êtes conviés au mois d'octobre.
Oui.
Si vous voulez venir avant, je pense pense que je fais quelques soirées au bordel dans le cadre du Grand Montréal Comique, mais sinon, au mois d'octobre...
Peut-être avant.
Ouais.
On s'invite.
Ben oui.
Merci beaucoup, Martin. Et surtout, passe un bel été pour te préparer pour la grande rentrée.
Ben oui, à vous aussi.
Salut, Martin.
Merci à nos recherchistes, à Toby Forget qui était à la mise en onde. Je vous souhaite de passer un excellent long week-end de Pâques, joyeuse Pâques, et on se retrouve mardi à 15h.